France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Continuer Maurice Leblanc, et non le pastiché, avoir une dette de reconnaissance à son égard, faire œuvre de piété, vivre une sorte de pèlerinage, lorsque l'on n'a jamais cessé de relire les Arsène Lupin. Tel était le credo, les credos, énoncés par Pierre Boileau, qui, en compagnie de Thomas Narcejac, venait de publier La Poudrière. Pierre Boileau, que recevait Roger Vrigny en compagnie d'Evelyne Schlimberger, le 17 octobre 1974, sur France Culture, dans l'émission La littérature.
La Poudrière, tel est le titre du roman publié par Boileau Narcejac à la librairie des Champs-Élysées. Evelyne Schlimberger.
Eh bien oui, c'est un livre merveilleusement rétro, comme on dirait aujourd'hui, pour être à la mode. Sur la couverture se profile l'ombre d'un dandy en haute forme, plastron et nœud blanc. On aura reconnu Arsène Lupin. Dès la première page, le décor est planté, une loge de l'opéra lors d'un gala des ballets russes, gala très officiel puisqu'il se déroule en présence du président Falière en l'honneur du roi de Serbie et de son fils l'archiduc Michel. Mais ce n'est pas le seul décor, il y a aussi une lugubre villa de banlieue, il y a un château délabré en Dauphiné, bien d'autres décors encore, et puis des personnages. Outre notre héros, le prince Cernine, qui vous aurait reconnu Arsène Lupin, l'une des métamorphoses d'Arsène Lupin, il y a une belle jeune femme blonde, Simone de Mareuse, une autre belle jeune femme, brune celle-ci, très méchante, elle, des bandits inquiétants, une autre jeune fille, une troisième, amnésique celle-là, dans une clinique fort suspecte, une armure au gantelet de fer qui ouvre la porte d'un souterrain introuvable, dont je ne révélerai pas le mystère, une certaine lettre pleine de secrets d'État que s'arrachent des espions internationaux, une course-poursuite la nuit.
Moi j'attends la Poudrière surtout.
Attendez, dans une puissante Daimler qui fonce à 80 km à l'heure sur des passages à niveau.
Déjà les restrictions.
Enfin, et j'oublie de l'amour et du plus tendre et du plus noble et du plus contrarié. Un meurtre affreux, d'ailleurs, sur lequel on passe très rapidement, c'est cruellement, à mon avis. Enfin, bref, un roman policier, comme on n'en fait plus, mais comme vous avez décidé, Pierre Boileau, d'en refaire en compagnie de votre coéquipier, si j'ose m'exprimer ainsi, Narcejac. Alors, je voudrais savoir pourquoi cette suite aux aventures d'Arsène Lupin.
Ah bien, c'est un peu une dette de reconnaissance que nous avons estimé devoir payer à Maurice Leblanc. Nous avons découvert Arsène Lupin, Narcejac et moi, quand nous étions adolescents, enfin ce qui a dû être le cas, je crois, de millions et de millions de lecteurs. Et je dois dire que nous avons été presque traumatisés. Vous savez, quand à 12 ou 14 ans, on apprend que l'aiguille d'Étretat est creuse et renferme le trésor des rois de France, ou bien que dans un œil de verre est cachée la liste de tous les députés qui ont tripatouillé dans l'affaire du Panama, ou bien qu'on voit l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, se rendre à la Santé pour discuter avec Arsène Lupin d'un secret qui concerne un petit pays d'Europe centrale, eh bien, je dois dire qu'on est bouleversé, n'est-ce pas? C'était presque notre première découverte du roman d'aventure. Et toute notre vie, je dois dire, nous n'avons jamais pratiquement cessé de relire les aventures d'Arsène Lupin. Et je crois que c'est un peu à cause de ces lectures et de l'émotion, des joies qu'elles nous avaient procurées quand nous avions, je vous dis, 12 ou 14 ans, que nous avons décidé de devenir à notre tour des auteurs policiers. Je crois que sans Leblanc, nous aurions choisi une autre carrière. Donc il y avait cette espèce de dette de reconnaissance. Par ailleurs, nous écrivons, comme vous le savez, nous nous sommes spécialisés dans le suspense, c'est-à-dire un genre de roman qui a pour objet de porter au maximum l'angoisse du lecteur, c'est-à-dire des romans qui sous-entendent des héros généralement torturés, malheureux, un peu douloureux. Alors pour nous, c'est une récréation, c'est le bain de jouvence, c'est vraiment la gaieté que d'écrire une suite aux aventures d'Arsène Lupin.
La gaieté, mais enfin, cela dit, ces aventures sont assez lugubres. Mais alors justement, il y a une touche d'humour, mais oui. On y viendra après. Oui. Moi d'abord, je voudrais vous demander ce qui se passe quand justement on aime Arsène Lupin comme vous et qu'on se met devant sa feuille blanche en se disant, eh bien, je vais essayer de faire comme lui, mais bien sûr en toute modestie, car vous le dites
absolument,
d'une façon tout à fait touchante au début du livre.
Oui, je m'excuse, là, je m'introduis un petit peu dans la conversation, car je suis tout à fait de l'avis de Pierre Boileau, et je pense que Daniel Boulanger, du reste, qui est notre invité, qui est arrivé un peu plus tôt, du reste, je l'en félicite, partage aussi peut-être mon sentiment. J'ai cette grande admiration pour les aventures d'Arsène Lupin, parce que c'est vraiment le droit à l'imaginaire. Enfin, quand on est tout jeune, on va dans ces aventures très très loin. Mais c'est une tentative de... Je veux dire, est-ce qu'il rentre un désir de pastiche chez vous? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la position n'est pas la même.
C'est la question que je posais. C'est la question. Que pastiche à partir du moment où on est dans sa feuille?
Non, je n'ai pas compris.
Je vais faire ça.
Pastiche sous-entend un peu satire, caricature, parodie dans un certain sens.
Et non pas amour, en quelque sorte.
Oui, alors que nous entendons, comment dirais-je, faire une imitation de Leblanc. Nous essayons de continuer Maurice Leblanc, mais non pas de le pasticher. Il y a une grande nuance et je crois que beaucoup de critiques s'y sont trompées. Oui.
Justement, mais alors, vous faites ça très sérieusement et ce que je voudrais savoir, c'est justement au fond, quels sont les grandes lignes de force font d'une œuvre de Leblanc. Parce que quand vous vous êtes attaqué à cela, vous avez dû sans doute décortiquer un peu ces livres pour savoir comment c'était fait.
Absolument.
Alors c'est fait de quoi et quels sont les ingrédients majeurs dont il faut se servir pour réussir, comme vous l'avez fait,
un bon Leblanc.
Un bon à la manière d'Arsène Lupin.
À la base, il y a une intrigue, mais une intrigue d'une certaine démesure, car je crois que c'est là l'essentiel de Maurice Leblanc. On ne peut pas faire un Lupin avec un simple mystère, un simple fait divers, comme on en utiliserait pour faire un roman policier traditionnel.
C'est le contraire même du commissaire Maigret, pourrait-on dire.
Si vous voulez, c'est le contraire du commissaire Maigret. Et alors, l'important, je crois que c'est la démesure. Je vous parlais tout à l'heure, je vous rappelais l'aiguille creuse, le bouchon de cristal, 813 et Guillaume II. Il est certain qu'il y a quelque chose d'excessif, je répète, de démesuré dans les aventures d'Arsène Lupin. Donc au départ, il faut trouver une histoire qui permette de rattraper sur ce plan-là ce que faisait Maurice Leblanc. Dans La Poudrière, du reste tout à l'heure, Vrigny demandait pourquoi La Poudrière.
Oui.
C'est parce que dans ce roman,
je le sais toujours pas.
Vous ne le savez toujours pas après ce que nous a expliqué Evelyne Schumberger.
J'ai conservé le doute.
Oui, elle a parlé de lettres et ces lettres concernent en somme le sort d'un petit état de l'Europe centrale, un état qui appartient aux Balkans.
Et
qui est une poudrière, car l'action se passe en 1914, et suivant que ces lettres sont découvertes ou non, le drame va éclater. Il éclaterait du reste un peu plus tard pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Donc là, nous avons déjà cette espèce
nous
de...
Nous vivons sur un volcan. Quoi.
Nous vivons sur un volcan, nous, exactement, une fois de plus. Nous avons donc cette espèce de démesure. Dans le roman précédent, l'autre...
Oui, car nous n'avons pas dit que c'était le deuxième.
C'est le deuxième. Le premier s'appelait Le Secret de Nerville. Et dans Le Secret de Nerville, il y avait quelque chose qui concernait Louis-Philippe et la fuite de Louis-Philippe. Donc là aussi,
donc un élément historique.
Un élément historique
international,
de préférence.
Ce
n'est pas indispensable. Il y a des Maurice Leblanc dans lesquels il n'y en a pas. Mais de préférence, il y a le problème historique, nous faisons les choses bien, qui donne la dimension voulue. Alors un second problème, c'est la cadence des événements. Chez Leblanc, il y a une prodigieuse richesse de péripéties et de rebondissements. On a l'impression du reste que Leblanc est un homme de théâtre. N'est-ce pas, ça se sent dans ses dialogues. Il recherche toujours l'effet.
La scène
à faire. Donc, il faut d'abord une intrigue suffisamment solide, et je le répète, suffisamment démesurée, et ensuite, qu'elle soit un prétexte suffisant pour avoir une grande multiplication de péripéties, d'événements et de renversements.
Et de points forts.
Points forts, et de points qui permettent à Lupin d'être Lupin, c'est-à-dire c'est de ça. Parader, de...
Oui, de ramasser négligemment une
quelque
anémone
chose,
blanche
c'est
dans
ça,
un fiacre,
de le
faire
ou de mettre en boîte le méchant. Oui. Et le... Donc, il y a ces données-là.
C'est ça.
Un autre problème qui se pose pour nous et qui est un des plus importants et qui ne se posait pas pour Leblanc, c'est l'époque. Oui. Les meilleurs Lupins se passent à peu près entre 1908 et 1914, enfin un peu à la fin de la Belle Époque. Donc c'est à ce moment-là que nous essayons de situer nos romans. Mais alors, pour ne pas faire d'anachronisme, pour ne pas écrire de bêtises, ça oblige à avoir une grande documentation que nous n'avons pas. Par exemple, avec Narcejac, depuis des mois, on recherche chez les bouquinistes et sur les quais un vulgaire guide bleu de Paris de 1908, 9, 10, 11. on n'arrive pas à le trouver.
Eh bien, vous le trouverez peut-être grâce à cette émission. Avis aux auditeurs.
Dans La Poudrière, par exemple, nous avons eu besoin d'un renseignement. Est-ce qu'en 1914, on disait des gardes municipaux ou des gardes républicains ? Ça a l'air idiot. On a cherché partout, on a demandé autour de nous, personne ne le savait. En désespoir de cause, on s'est adressé à la caisse.
Et le préfet de police ne le savait pas.
Non, ben, c'est pas lui qu'on s'est adressé, on a visé plus bas. On s'est adressé au boulevard Henri IV à la caserne et on est tombé sur un adjudant qui nous a dit en 1914, on disait des gardes républicains. Mais on n'a pas toujours la chance d'avoir un adjudant sous la main.
Et le personnage d'Arsène Lupin, alors,
oui.
Comment le recréer par rapport au livre de Maurice
Leblanc? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus facile ou ce qu'il y a de plus difficile?
C'est des caractéristiques.
Ce qu'il y a de plus facile. On ne le recrée pas, on le continue, n'est-ce
pas? Oui, c'est ça.
Et ce qui nous a séduit, c'est parce qu'aujourd'hui, Arsène Lupin paraît un personnage tout à fait à contre-courant, anticonformiste. Il est à l'opposé des héros qu'on propose à l'admiration des lecteurs d'aujourd'hui, qui sont généralement des privés, des agents secrets, généralement vulgaires, grossiers, brutaux.
Des mercenaires, qui travaillent pour d'autres, tandis que lui, il travaille pour lui-même,
pour le panache. Il fait la cour aux femmes. Les héros d'aujourd'hui leur sautent dessus. Enfin, il y a une grande différence, et c'est ça qui nous a paru en partie très amusant, c'est de faire quelque chose d'anticonformiste.
Oui. Et généralement aussi, dans tous les romans de Maurice Leblanc sur Arsène Lupin, Pierre Boileau, il y a un cas de conscience qui se pose à Lupin. Je veux dire qu'il est quelquefois pris justement entre, disons, l'amour de la patrie,
et l'inclination vers une belle femme, les secrets d'État, n'est-ce pas ?
Et puis son propre besoin, ou tout au moins son envie de garder l'argent ou les bijoux. Enfin,
oui, parce que c'est quand même un
Et puis également des cas de conscience de cœur aussi, car il tombe généralement amoureux et perdu d'une femme du monde ou de quelqu'un
d'une très pure jeune fille.
Qui ne veut pas éclabousser de...
Ça faisait un peu partie du roman populaire d'autrefois. Il y avait toujours le conflit qu'on retrouve dans la plupart des romans ou des feuilletons du siècle dernier.
Oui.
Donc, disons que c'est un élément en plus, si vous voulez, attractif en ce qui concerne...
Mais alors l'humour, parce que nous avons dit que ce livre, tout de même, ne manquait pas d'humour. Alors, est-ce qu'il vous vient spontanément quand vous, au fil de la plume, parce que vous vous amusez vous-même, ou est-ce que vous le dosez très savamment, ni trop ni trop peu, parce qu'il y a tout de même quelque chose?
Oui, il vient plutôt au fil de la plume. Il y a une espèce
Qu'est-ce qui vous a le plus amusé, au fond, dans ce livre-là? Est-ce qu'il y a une scène que vous avez faite avec une particulière délectation?
Je ne crois pas. Ce qui nous plaît le plus, c'est les scènes où on se rend compte qu'on touche le plus Maurice Leblanc. Car tout le problème est là, c'est d'arriver à le rattraper, n'est-ce pas? De se maintenir à son niveau.
Et dans le style aussi?
Et dans le style, nécessairement. Je dois ajouter que nous avons eu du reste beaucoup de mal à faire aboutir ce projet. Je vous dis ça parce que je repense à Maurice Leblanc. Il y a 11 ou 12 ans qu'avec Nerce Jacques, nous avions cette idée d'écrire une suite aux aventures d'Arsène Lupin. Et nous en avions parlé à Claude Leblanc, au fils de Maurice Leblanc, il y a, je vous dis, 10 ou 12 ans. Et je veux dire qu'il était hostile à ce projet, pour des raisons du reste tout à fait honorables. Ça l'ennuyait de voir des auteurs se substituer à son père, de voir une autre signature succéder à celle de son père sur les couvertures d'Arsène Lupin. Alors nous avions abandonné ce projet, il nous travaillait tellement qu'on s'est dit tout de même, il faut essayer. Alors nous avons pris nos risques. Et nous avons écrit alors le premier, Le secret de Nerville. Et à ce moment-là, il y a 2 ans, nous avons soumis le manuscrit à Maurice Leblanc. Et à ce moment-là, il est revenu sur sa décision. Il a vu que, je ne sais pas, qu'on ne poursuivait pas un but commercial, mais que c'était simplement par amour, par reconnaissance, une œuvre de piété, un pèlerinage. Et alors, il nous a donné le feu vert à ce moment-là. Et
oui, car il fallait tout de même, je pense, Pierre Boileau, son autorisation.
Absolument.
Car il y a une propriété littéraire des personnages de romans.
Absolument.
Je veux dire que finalement, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a quelques écrivains, ils vont se dire, tiens, je vais écrire, je ne sais pas moi, la suite des Trois Mousquetaires. Remarquez, ça a déjà été fait par Dumas, mais enfin, tout d'un coup, pour envisager. Ou du Père Goriot, oui.
Je ne
pourrais pas reprendre Madame Bovary, puisqu'elle est morte, mais en tout cas, il pourrait tout de même. Alors, ça pose un problème.
Ça pose un problème. Voilà, le problème, il était tout simple. Il y avait le fils Leblanc, Maurice Leblanc, Claude Leblanc, sa sœur du reste, qui ont les droits. Et en plus de ça, les éditions Hachette, qui avaient publié les premières aventures d'Arsène Lupin. Je crois que c'était les éditions Pierre Lafitte, mais enfin, c'est la même chose. Alors, c'est pourquoi, d'abord, nous avons eu l'accord de Claude Leblanc. Et ensuite, nous avons été publiés à la librairie des Champs-Élysées, qui est maintenant une filiale Hachette, n'est-ce pas, comme vous le savez. Et ça a été un peu un retour à nos premières amours, puisqu'il y a quelques 30 ans, Nerce Jacques et moi-même avions fait nos débuts dans la collection du Masque,
qui
publiait déjà la librairie des Champs-Élysées.
Alors, faut-il voir dans ces ouvrages que vous publiez Pierre Boileau avec Thomas Narcejac, une nouvelle transformation du couple célèbre du roman à suspense Boileau-Narcejac. Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que maintenant Arsène Lupin va vous prendre à son compte en quelque sorte?
Non, nous faisons les deux choses parallèlement. Arsène Lupin pour la distraction, pour la cure de jouvence, et puis nos suspens, parce que nous en écrivons depuis 20 ans et que c'est un genre que nous aimons beaucoup. Le mois prochain, nous allons publier un nouveau suspense qui s'appelle Frère Judas.
Et ce qui serait absolument merveilleux, Pierre Boileau, ce serait de penser que, un peu plus tard, disons, nos enfants, nos petits-enfants se disent « Alors finalement, la poudrière, c'est Arsène Lupin, c'est de Maurice Leblanc ou c'est de Boileau-Narcejac ?»
J'ai oublié ce détail tout à l'heure, c'est que nous ne publions pas les Arsène Lupin sous notre nom, n'est-ce pas?
Oui.
La signature, c'est pour les raisons que je vous ai tout à l'heure, mais Claude Leblanc n'a pas voulu, il a eu parfaitement raison qu'une autre signature succédait à celle de son père. Alors, ses romans sont signés Arsène Lupin.
Comme si
lui-même prenait la plume, encore qu'il ne soit pas écrit à la première personne. Je veux dire, du reste, que ça n'a trompé aucun lecteur. Il n'y avait pas 8 jours que Le Secret de Nerville était sorti, qu'il y avait déjà des articles disant que c'était Boileau-Narcejac. Du reste, dans le deuxième, La Poudrière, nous avons fait paraître un petit avertissement. Je crois, du reste, que nous ferons des préfaces dans les autres pour bien préciser notre position. Les lecteurs de l'avenir, ça restera. Il y aura Maurice Leblanc et il y aura Arsène Lupin, et c'est l'essentiel.
Et ça sera encore une des métamorphoses d'Arsène Lupin, car dans chacun des romans, on croit toujours qu'il est mort, il fait toujours des plongeons ahurissants, et il fait toujours des disparitions merveilleuses, mais en fait, on était sûr de le retrouver, et là, même après la mort, on est sûr de le retrouver.
C'était un extrait de l'émission La littérature du 17 octobre 1974. Roger Vrigny et Evelyne Schlumberger recevaient Pierre Boileau à l'occasion du deuxième Arsène Lupin qu'il venait d'écrire avec Thomas Narcejac. Avait précédé Le secret de Nerville, suivront Le second visage d'Arsène Lupin, La justice d'Arsène Lupin, Le serment d'Arsène Lupin, publié aux éditions du Masque. Émission réalisée par Michel Thierry.